J'ai l'impression qu'on est revenu là.
Une ouverture de nuit.
Moi, mais quelque chose, là. Pensez à de quoi. Hey, Gravel en retour, ça se termine maintenant. Yann Masso sera pas content. On se laisse. Demain, Denis est de retour. Merci, Antonine.
Merci, Alphonse.
Merci, Véro. On se jase demain dès 14h. Soyez là dans Gravel en retour.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonine Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Je pense qu'on parle assez d'actualité ces temps-ci, puis on a pas mal fait le tour, quoique le budget est sorti aujourd'hui, puis je me suis dit, tiens, on va prendre des vacances ce soir, c'est pas tout le temps des bonnes nouvelles qu'on a quand nos politiciens nous annoncent des trucs, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que tout était vrai? On sait pas. Est-ce qu'il y avait des mensonges? Très certainement. Donc voilà, on change complètement d'orientation pour ce qui est de l'émission de ce soir, dans Mars au soir, sur notre grille horaire. On reçoit Martin Bourget, qui est du groupe Aventure Chasse-Pêche. C'est un expert en chasse et en pêche. Il revient tout juste du continent africain. Salut Martin Bourget, comment ça va?
Salut Yann, comment ça va toi?
Ça va super bien. On va le dire ce soir, tu es en direct de ton cellulaire parce que tu n'as pas d'électricité chez vous. Bon Dieu qu'on est dépendant à l'électricité, hein?
Ben oui, puis non, je te dirais, tu sais, nous autres, on est habitués de vivre dans des chalets. Dans un chalet, bon, on a le propane, on traîne des cruches d'eau, puis on a soit des panneaux solaires ou des blocs de courant. Fait que, évidemment, on a cet équipement-là ici, qu'on se dépend quand même assez bien. La seule chose, je te dirais, nous autres ici, qui est un petit peu plus dépendant, c'est qu'on n'a pas accès à de l'eau parce que les lacs sont gelés. Fait que pour les toilettes, puis la douche, ça occasionne un autre petit problème parce qu'on est sur un puits artésien. Fait que la pompe, elle fonctionne avec du courant. Ouais. Ayant pas d'inverteur sur la boîte de courant, ben c'est le seul point. Sinon, je te dirais que, à la limite, c'est calme, c'est tranquille. Tu te rends compte quand tu es en panne de courant, même que même dans ton sommeil, tu entends le bourdonnement de l'électricité dans les murs qui n'est pas présent. Ben, dans un certain sens, on regarde même les enfants et on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus zen de même.
Ouais. C'est sûr que ça rapproche une famille là, quand les toilettes ne fonctionnent pas. Là.
Ben, ça rapproche ou ça agrandit une famille, hein, c'est au choix.
c'est sûr et certain. All right. Donc, tu reviens de l'Afrique. Tu as été là pendant combien de temps? Ton périple a duré combien de temps?
Là, on était là. Si je ne me trompe pas, on a fait total 9 jours terrain parce qu'il y a quand même les déplacements. C'est quand même assez long. Hein. On a entre 24 et 27 heures de déplacement là, avec les transferts, etc. Donc, on reste jamais un peu dans un aéroport à gauche ou à droite. Alors, on fait de dos et bancs. Fait que 9 jours sur le terrain, 9 jours de pur bonheur, encore une fois. Puis cette fois-là, c'est, on est habitué, nous autres, d'aller vraiment au nord de l'Afrique du Sud. Là. Pour situer les gens, là, si vous prenez une carte géographique au nord complètement, vous allez spotter le Zimbabwe puis le Botswana. Juste en dessous du Zimbabwe puis du Botswana, il y a un fleuve qui s'appelle le Limpopo. On est juste au sud de ça, là, généralement, donc complètement à l'extrême nord de l'Afrique du Sud. Alors que là, on était dans un secteur où est-ce que n'importe qui fait de la voile, là, va parler le même langage. Là. Secteur de la Eastern Cape, donc Cape Town, qui est le rêve de n'importe quelle personne qui fait de la voile. On était plus à hauteur, par exemple, de Port-Élisabeth. Si vous regardez sur une carte, vous allez voir Grahamstown, un petit peu au nord de tout ça, qui est une ville universitaire de renommée internationale. Ils font des médecins là-bas. On était juste un petit peu au nord de tout ça, mais et essentiellement à la frontière, là, pas à la frontière, mais sur le bord de l'océan Indien. Là, une expérience complètement nouvelle pour nous autres.
Okay. Puis vous êtes allé chasser là-bas, vous êtes allé pêcher. Qu'est-ce que vous avez fait exactement?
Dans notre cas, on chassait, évidemment. On avait avec nous autres, par contre, des gens qui étaient là en photo. Donc, safari photo, mais safari photo avec multiples activités. On est allé, écoute, on a eu la chance de partir toute la gang ensemble, aller dans la réserve Scotia là-bas, qui est une réserve qui abrite 4 des Big Five. Hein. Les Big Five, c'est le léopard, le lion, le rhinocéros, le Cape Buffalo et, mon Dieu, j'en cherche un, ça va bien. l'éléphant, évidemment. Donc, les Big Five. Eh bien, à part le léopard, on a tout vu là-bas. Là. Gros Cape Buffalo, des éléphants, en veux-tu, en v'là, rhinocéros. On a vu des lions là à peu près à 6 pieds de distance avec leur comportement social, tout ce que tu voudras. Les gens qui étaient là en photo, c'est des golfeurs aussi. il y a un matin que le propriétaire de la place leur a annoncé « Hey, je vous ai trouvé un départ sur un golf en Afrique du Sud. » Les filles capotaient bien net, sont habituées à jouer ces gros circuits en Floride. Puis là, ils se retrouvaient sur un départ en Afrique du Sud. Mais on aurait pu, sur place, aller faire des visites historiques. Le Grahamstown, qui est à proximité, tu as des vieilles prisons. On est allé prendre un café d'une vieille prison des années 1800. Il y a une route des vins là-bas qui est incroyable. Il y a un circuit historique qui est incroyable. Des champs d'ananas à perte de vue. Tu peux aller ramasser tes ananas. Ils prennent un petit grinder, un petit blender, ils te blendent au milieu de l'ananas, ils te remplissent ça avec du rhum, puis ils te mettent une paille là-dedans. C'est toute beauté.
Tabarouette, OK.
Fait que tu sais, nous autres, on était à la chasse. Mais honnêtement, en termes d'observation et multiples activités, il y a tellement de choses à faire dans ce secteur-là. On est habitué, nous autres, aux grandes plaines, aux grandes savanes africaines. Je me plais à dire souvent que si tu prends une lunette de rapprochement, un télescope, on va dire ça de même, d'après moi, tu es capable de voir à la maison si tu as de la poste, hein, tellement c'est plat, longtemps. Alors que là, complètement l'inverse. On était sur le derrière, là, on est monté dans les montagnes. Entre autres, Kate est allé faire un reedbuck, est allé à la chasse au reedbuck. Ça nous a permis de, là, c'est un animal qui se tient en montagne, de monter dans des belles altitudes là, pour avoir des bons plans de vue très, très loin, là. Le paysage des montagnes, une après l'autre, en escalier avec les champs d'ananas, puis l'océan Indien qui vient comme finir ta vue, là, c'est débile. Le plan de vue est incroyable partout où est-ce qu'on va. Puis dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'eau aussi. Fait que c'est verdoyant, verdoyant. Alors qu'au nord, à ce temps-ci de l'année, on a encore de la verdure, mais il y a beaucoup, beaucoup de grandes savanes jaunes. Ce qu'on voit dans les films d'Afrique là, avec Pumba qui sort de là par Wego. Alors que là, c'est vraiment là, luxurieux, verdoyant, beaucoup de gros arbres. Hein. Au nord, on a des grands baobabs, les maroulas, les acacias, etc. Là, c'est beaucoup plus des buissons, mais c'est excessivement verdoyant. Des oiseaux, mon ami, de toutes les couleurs que tu peux t'imaginer. Un beau coin, très prolifique au niveau animalier, très prolifique pour la chasse, mais aussi pour la photographie. Puis là, j'entends les non-chasseurs. Là. Quand on dit prolifique, là, c'est à un point où est-ce que, là où est-ce qu'on était, ils nous ont demandé de si on voulait bien participer à une chasse de contrôle animalier, parce qu'il y a certaines espèces qui sont en surplus.
D'ailleurs, on va en reparler, Martin, de ça, parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important souvent quand les gens disent « Quoi, vous allez tuer des animaux en Afrique? Vous êtes une erreur de la nature, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Bien, il y a une raison pour laquelle c'est possible de chasser en Afrique, puis c'est une raison qui est très environnementale, soit dit en passant. Juste avant, l'Afrique, Martin, c'est le berceau de l'humanité. Les paysages, comme tu le dis, sont à couper le souffle. Les animaux qui sont là sont juste exceptionnels. Est-ce que tu te sens encore privilégié d'avoir accès à tout ce continent-là pour justement le visiter plusieurs fois avec la belle gang de groupe Aventure Chasse-Pêche?
J'en reviens juste pas encore.
Ouais.
J'en reviens juste pas encore qu'année après année, si ces gens-là... C'est rendu la famille, là-bas, on est chanceux, on est privilégié, on s'est invité par plusieurs personnes. C'est là, on était chez Lakeside Safari, ça c'est Sylvain Turenne qui a des pourvoiries ici aussi au Québec. Ça va faire une dizaine ou une douzaine d'années qu'il nous dit « Hey, on veut vous faire découvrir une autre partie de l'Afrique du Sud. » Ben, quand t'as vu l'Afrique. Non, les ils changent pas juste la couleur des murs. On a quelque chose de complètement différent. Privilégié, beaucoup. Berceau de la vie, tu le dis, là, c'est incroyable. T'sais, on est allé sur le bord de l'océan Indien. Si l'océan aurait été plus calme, on serait sorti en mer pour aller faire de la pêche. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point l'Afrique change quelqu'un. L'Afrique du Sud change quelqu'un quand on va là, quand on voit les structures sociales entre êtres humains. T'atterris à Johannesburg. T'sais, on donnait de l'UNICEF quand on était petit. Là, fait qu'on s'imaginait que là-bas, tout le monde vivait dans des huttes de paille. Là. Tu déposes ton avion à Johannesburg, puis à l'entour de toi, c'est des BMW, des Audi, des AMG, par Wego, c'est riche, riche, des grandes universités. Tu sors de là, puis tu vois des gens voler des briques après le mur de l'autoroute pour se faire des petites maisons, puis des pancartes d'autoroute pour se faire des toits. La structure sociale est totalement différente. Quand on a amené les petits l'année passée, en fin juillet, on a amené les 5 enfants. Puis avant de partir, on leur a dit, vous allez comprendre ce qu'on vous dit quand on vous dit, finis ton assiette, il y en a dans le monde qui ne mange pas. Puis, ils l'ont vu là-bas. Ils l'ont vécu. Ils ont participé à remettre de la viande à la communauté. Ils ont participé à l'équilibre de l'écosystème par de la chasse de gestion, etc. Ils ont vu comment ça fonctionnait. Puis, pas juste sur le plan social humain. Le plan social animalier aussi. Ici, Yannick, tu vas être chanceux quand tu vas te promener dans le bois et tu vas avoir un chevreuil dans ta journée. Ou un orignal dans ta journée. Là-bas, des animaux, il y en a partout. les ranchers, qu'on les appelle, les gens qui ont des réserves privées, ont participé à ce qu'il y ait aujourd'hui énormément d'animaux pour qu'on puisse les observer. Fait que là, tu es en face de ce qui se passe vraiment. Le qui mange qui. Tu vas avoir dans un secteur une famille de hyènes tachetées. Tu vas avoir un troupeau de lions. Tu vas avoir une famille de léopards qui est résidente. Puis tu vas avoir, par exemple, une famille de African Wild Dog. Ces quatre grands prédateurs-là vont se chicaner le territoire d'une certaine façon. Puis tu vas voir un petit peu comment, dans la structure sociale, juste les lions, allez voir, la BBC vient de faire une série de 4 documentaires qui s'appelle Kingdom. Allez voir comment ça se passe quand un lion se fait éjecter d'une meute ou quand 2 meutes franchissent le même territoire. De quelle façon une femelle lion va même aller accepter le nouveau mâle, mais se sauver dans les montagnes pour aller cacher ses bébés, faire semblant d'être en chaleur, se faire accoupler par le mâle lion pour, quelques mois après, logique en termes de gestation, réintroduire ses lionceaux dans le troupeau en faisant croire au nouveau mâle que c'est ses bébés à lui. La structure sociale animalière, elle est tellement complexe, mais t'en apprends tellement en regardant les choses. Alors, en regardant, parfois, là, tu vas rentrer sur un territoire, puis les gens vont dire, ouais, ici, on manque de prédateurs. Là, je dis, comment ça, on manque de prédateurs? On manque de prédateurs, c'est le fun, t'as plus d'impala, t'as plus de ci, t'as plus de ça. Non, ils meurent de faim. Ils sont trop, ils mangent trop de gazon, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de... Ah, ouais. Puis là, il y a des déménagements de troupeaux de African Wild Dog, des chiens sauvages, des licaons qu'on appelle, là. Donc, allez voir les licaons, là, c'est le prédateur le plus efficace d'Afrique du Sud. Ils vont déplacer un troupeau quand le bordel est pogné dans un territoire entre 2 familles de léopards, 2 familles de lions, 2 familles de licaons ou de hyènes tachées. Ils vont en déplacer pour qu'ils viennent faire une certaine job de prédation pour équilibrer. C'est un théâtre de la vie que tu ne peux pas voir ailleurs. T'es dans un national géographique 8K, on te plante là, puis dans les premiers 48 heures, tu te pinces souvent parce que tu as de la misère à réaliser que tout ça est en train de se passer alentour de toi. Cette interaction-là entre les proies, les prédateurs, les animaux qui, en parenthèse, qu'on appelle nuisibles, les animaux qui vont débarquer dans des camps puis qui vont faire du ravage, une affaire incroyable, comme par exemple les babouins ou encore les velvet monkeys, les fameux blue board monkeys. Puis voir de quelle façon les choses s'équilibrent quand, par exemple, il y a un simple 2 mois, pas de pluie, qui descend un lit de rivière dans un espace particulier, comme par exemple le Limpopo, qui va permettre à des prédateurs de traverser la rivière, qui en l'espace d'un mois vont venir régulariser la situation parce qu'ils ont enfin pu traverser la rivière. Là, whoop, la rivière va reprendre son lit, puis il va naturellement s'installer un autre phénomène qui va être la séparation, par exemple, d'un groupe de lions, parce qu'ils n'ont pas tous eu le temps de traverser. Puis tu vas être témoin du rétablissement d'une structure sociale dans le nouveau groupe de lions qui était prisonnier sur cette bassine de la rivière. Puis quand la rivière va redescendre la prochaine fois, bien, tu vas voir ces 2 meutes-là se confronter pour un territoire qui est giboyeux. Puis tu vas voir comment est-ce que les mâles prennent la domination sur un autre meute, vont tuer tous les mâles de l'autre meute et les bébés de l'autre meute. Tu vas voir comment est-ce que, un autre exemple qui est frappant, dans un troupeau d'antilopes XYZ, quand un troupeau de prédateurs ou encore un chasseur va aller récolter pour manger le mâle dominant, eh bien, c'est le mâle qui le suit qui va prendre la place. Mais quand le mâle qui suit prend la place, puis ça, c'est très, très, très fragile, puis on le calcule, nous autres, quand on va à la chasse. Quand le mâle qui suit le mâle dominant prend la place, sais-tu qu'est-ce qui est la première chose qu'il va faire dans le troupeau?
Non.
Il va tuer l'ensemble des bébés qui n'est pas de sa génétique. L'ensemble des bébés qui appartenaient à l'autre mâle, il va tous les tuer. Fait qu'on vient de perdre un an sur la prolifération du troupeau, si on peut dire ça de même, ou sur la survie du troupeau. Puis souvent là, ça peut mettre un troupeau vraiment en situation problématique. On a vu des licaons, des African Wild Dog, avoir finalement des bébés après avoir été éjectés de l'autre bord de la rivière d'une meute, et une femelle alpha qui tente de reformer le troupeau de licaons. Puis soudainement, ben, là où est-ce qu'ils ont leur terre, puis les bébés sont tous dans le terrier, il y a un troupeau de Cape Buffalo qui passe par la route que là. Alors, un buffle du Cap, un Cape Buffalo, c'est 1500, 1800, 2000, 2500 livres. Là, tu en as 160 qui passent sur la route que là. Ben, imagine-toi donc, Yannick, que ça l'a fait s'effondrer l'ensemble du réseau souterrain où est-ce qu'étaient les bébés. Les bébés sont tous morts. Il n'y a pas eu de relève, puis la minute que la rivière est redescendue, l'autre famille de licaons, de l'autre côté de la rivière, sont venus tuer le troupeau qui était trop peu nombreux. Il s'agit d'une pluie, une sécheresse, un bon coup de vent, un bon coup de froid, peut venir changer la dynamique d'un territoire au complet en un claquement de doigts, tellement que la structure sociale entre les proies, les prédateurs, la présence ou pas de végétation suffisante pour les nourrir est fragile. Même s'ils sont 5000 dans les forêts alentours, des petits événements comme ça sont capables de venir tout changer. Une grosse pluie suivie de froid, tu viens changer la dynamique de l'écosystème au complet là-bas. Tu viens de mettre la marde dans le fan. On va dire ça de même. Alors ça, c'est des choses que tu ne peux pas être témoin quand tu as 3 orignaux puis 2 chevreuils dans ta forêt. Là-bas, ben, c'est de l'apprentissage grand V. Tu apprends vite parce que les troupeaux évoluent très, très rapidement et disparaissent très, très rapidement aussi. C'est une école. Nous autres, les enfants sont sortis de là avec un mindset complètement différent envers l'humanité, l'hommerie aussi. Qu'est-ce que l'homme est capable de faire? Parce qu'on était témoins, on a été témoins, nous autres, là, d'une scène de braconnage sur des rhinocéros blancs quand on était là-bas. Là. Ça passe serré dans la gorge quand tu vois ça. Ça passe serré dans la gorge. Ils se sont rendus compte de ce que c'était l'homme, de quelle hommerie il était capable. Mais ils se sont rendus compte aussi de la puissance du milieu naturel, puis de l'énorme différence que peut faire un mini-élément d'une nuit, une pluie trop froide dans une nuit sur un grand, grand territoire de milliers de kilomètres carrés.
Franchement intéressant, tu nous fais beaucoup rêver, tu nous en apprends beaucoup, Martin Bourget. Tu es du groupe Aventure Chasse-Pêche. Avec ton équipe, puis les clients qui t'accompagnaient en Afrique, on vous a demandé de faire une opération, c'est ça? Puis tu t'attendais pas à ce genre d'opération-là? Vous êtes allé directement en théâtre, puis vous avez fait ce qu'on vous a demandé?
Oui, absolument, absolument. Tu sais, puis ça nous est déjà arrivé au Nord, on nous a demandé de participer à des chasses de déprédation au moment où est-ce qu'il y avait beaucoup trop de chacals, qui est l'équivalent un peu de notre coyote ici. Puis on a toujours, quand on nous a invités à des chasses comme ça pour régulariser, ça a toujours été envers les prédateurs, les hyènes, les chacals, les caracals, etc. Lorsque le rancher nous a demandé, donc le propriétaire de la réserve privée, il dit « Martin, on a certains animaux qui sont trop vieux, vieillissants, ils vont mourir, on va perdre la viande, le village en a besoin. On a aussi des animaux qui sont en surnombre, entre autres les waterbuck. Et les waterbuck sont connus comme étant de très, très gros mangeurs. Puis ça crée une problématique dans le territoire parce qu'ils se reproduisent tellement, c'est leur milieu naturel ici, alors que d'autres espèces sont introduites du nord. Ils sont très à l'aise et ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça diminue la capacité de soutien du milieu. Ça met en danger l'ensemble des troupeaux du territoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, si vous le voulez bien, on va aller récolter un certain nombre de femelles waterbuck pour diminuer les quantités. Fait qu'on a pu participer à ça. On a quelques chasseurs qui ont pu participer à cette chasse de contrôle-là. Kate a aussi participé à une chasse de contrôle sur des animaux vieillissants ou encore des animaux qui ont une corne cassée. Là, pour situer les gens, à l'approche de l'hiver, ben, les chevreuils et les orignaux vont perdre leur bois, puis les bois vont repousser l'année d'après. En Afrique du Sud, les cornes, c'est de la kératine, comme vos ongles ou comme vos cheveux. Ça pousse continuellement, ça ne tombe pas. Et si ça casse, ça reste cassé. Alors, imaginez-vous deux grands mâles, on va dire par exemple deux grands mâles oryx, qui se battent ensemble, puis il y en a un des deux qui manque une corne. Au lieu de barrer les deux cornes ensemble lorsqu'ils se battent, il y en a une qui passe droite. Fait que le mâle qui a une corne cassée va blesser énormément de congénères pendant la saison. Il va en tuer énormément et c'est nuisible. Donc, Kate a pu récolter, entre autres, 2 antilopes sable qui étaient problématiques, une femelle très, très, très vieillissante et un veau très, 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 très maigre qui allait mourir. Elle a fait la même chose avec une vieille, vieille femelle élan, un élan du Cap. C'est une grosse, grosse bête qui était rendue à plus pouvoir nourrir de bébés avec les muscles très affaissés. C'était le temps de la récolter. De mon côté, moi, j'ai pu y aller du côté des waterbuck pour diminuer les quantités de waterbuck, permettre au reste des troupeaux de pouvoir survivre. En chassant ces waterbuck-là, on assure même la survie du troupeau de waterbuck proprement dit, parce qu'on assure, la présence d'herbe pour une relève. On retire les vieilles femelles qui sont plus actives dans le troupeau, puis les vieux mâles qui sont plus actifs dans le troupeau, et on conserve qu'est-ce qui est grandissant, qu'est-ce qui est encore capable de se reproduire. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Tu sais, chez Lakeside, entre autres, Sylvain Turenne nous disait en partant, il dit, vous le direz aux clients, si jamais ils veulent, qu'ils soient chasseurs ou pas, s'ils veulent, en dehors des activités qu'ils sont venus faire ici, participer à des chasses de contrôle comme ça, on leur demande de nous le dire parce qu'on est capable de leur léguer un bagage de connaissances qui est tellement énorme en les faisant participer à des chasses de contrôle comme ça. On appelle ça des management hunts là-bas. Que c'est un grand plaisir pour nous autres parce qu'on les renvoie à la maison avec une appréciation beaucoup plus grande des activités qui sont faites ici en Afrique du Sud pour la conservation des troupeaux, des cheptels animaliers. Fait que ça, c'est C'est possible dans certaines places. C'est chez Eland Safari, au nord, où est-ce qu'on va, c'est possible. Chez Lakeside aussi. Il faut juste le dire quand on y va. On a, entre autres, vécu une scène géniale avec quelqu'un qui était là en photographie seulement, puis qui, en voyant le genre de chasse qu'on faisait, elle dit, sais-tu quoi? Jamais j'aurais pensé chasser. Mais en comprenant ce que vous êtes en train de faire, est-ce qu'on peut, en allant au champ de tir préalablement pour voir si je suis capable de manipuler l'arme, j'aimerais aussi participer à ça. Alors, on s'est tout reculé, puis on a tout fait quand même un certain saut. Quand, ah ouais, t'as déjà eu le temps de comprendre ça. Mais ici, on apprend tellement vite que oui, je comprends cette dynamique-là, puis j'aimerais participer à ça, même si jamais dans ma vie j'aurais pensé chasser, je veux le faire. On est allé au champ de tir et le lendemain matin, elle a pu récolter une femelle waterbuck dans cette chasse de conservation-là, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de résilience aussi, beaucoup de fierté dans le geste qu'elle avait fait, mais beaucoup aussi de tristesse qui, je pense, est nécessaire dans n'importe quelle chasse, que ce soit une chasse de contrôle ou encore une chasse trophée ou pour la viande. Ça nous permet, Yannick, de garder une conscience sur... Tu sais, il y a une partie dégueulasse dans le geste qu'on fait. Hein. On doit retirer la vie d'un animal. Ça, faut jamais l'oublier. Fait que quand on voit des chasseurs qui ont encore cette sensibilité-là, on l'encourage fortement. La majorité des chasseurs ont cette sensibilité-là, mais on encourage fortement à conserver ce respect-là. On vient tout de même d'enlever la vie à une bête. C'est beau, les festivités, parce qu'on va ramener de la viande à la maison, mais il y a une limite. Cette limite-là, c'est le respect qu'on doit à ces bêtes-là. Puis cette personne-là a fait une récolte dans le cadre d'une chasse de gestion qu'elle a comprise là-bas dont elle souhaitait faire. Mais elle a eu ce moton-là, elle a eu cet instant-là de tristesse relatif à la mort de la bête. Puis ça a donné un moment d'éducation pour tout le reste des gens qui étaient non-chasseurs sur place. Et même si on aurait voulu scénariser, moi et toi, Yannick, on n'aurait jamais arrivé à mettre ça en place. Ça, c'est ce qui est grand dans ce qu'on fait. Tant et aussi longtemps qu'on le fait pour les bonnes raisons et qu'on conserve ce respect-là.
Puis les animaux qu'on vous permet d'abattre, est-ce qu'on vous les cible ou c'est vous qui devez les cibler? Comment ça fonctionne, ce transfert d'informations-là?
C'est toujours le guide qu'on va appeler un PH, un Professional Hunter, qui va cibler les animaux. Et ça, je ne peux pas parler pour partout. Moi, je peux parler où est-ce que je l'ai vécu, donc chez Eland Safari au nord, dans Limpopo, et chez Lakeside Safari. Les guides vont vraiment prendre le temps de parler avec nous autres, à voir qu'est-ce qu'on souhaite faire comme chasse. De là, ils vont nous dire, ben écoute, c'est pas possible sur le territoire parce qu'il n'y a pas d'animaux comme ça qui sont disponibles présentement, parce que les animaux, il n'y a pas d'animaux vieillissants, il n'y a pas d'animaux suffisamment grands et vieux pour récolter là-dedans. Ou sinon, ils vont nous dire, oui, parfait, c'est possible. Par exemple, dans le troupeau, on va dire ça comme ça, ou dans la quantité de coudou qu'on a sur place, il y a justement un mâle qui répondrait à cette récolte-là, on va aller le récolter. Et on part avec notre guide, généralement deux chasseurs avec un guide et un tracker. Et sa job au guide, ça va être de clairement identifier l'animal qui est ciblé pour que le chasseur récolte celui-là et pas un autre. Et le chasseur doit vraiment attendre les indications de son guide avant de faire feu. Et les guides là-bas sont habitués à prendre le temps, nous mettre en confiance et s'assurer qu'on ait vraiment qu'on va être capable de placer un premier coup de feu qui va être le plus efficace possible parce que les animaux là-bas sont excessivement résilients, sont excessivement résistants avec les mêmes calibres qu'ici. On abattrait par exemple un orignal très rapidement. Bien, même les plus petits animaux là-bas, d'un fois, ça va prendre un deuxième coup. Ils vont se sauver, on va courir après. Donc, les guides vont prendre le temps de placer les clients. Ils vont s'assurer avec le client, si par exemple il y a 4-5 animaux de la même espèce, que l'identification que le client en fait, OK, à partir de la gauche, tu vois le quatrième, il regarde vers ici, oui, tu es sûr d'avoir le bon, parfait. Est-ce que tu vois bien l'épaule? Est-ce qu'elle est dégagée? Il va placer le client. Il n'y a personne là-bas qui tire sur ce qu'il veut. Tu risquerais de te faire expulser, puis de ne plus pouvoir revenir plus jamais, jamais, jamais dans ce rancho, dans cette réserve-là. Littéralement, c'est strict à ce point-là. Ils ont choisi leurs animaux, ils ont un plan de gestion, ils savent lesquels sont à récolter, lesquels ne le sont pas. Ils ont aussi leur breeder là-bas, donc des grands mâles qui sont très actifs dans la reproduction, ils ne veulent pas qu'on les tire nécessairement. Alors, ils vont nous accompagner, ils vont nous identifier très clairement. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux là-bas. Dans un troupeau de 150 animaux, ça se peut qu'il y en ait juste deux qui soient disponibles pour la chasse. Et des fois, pas en tout. D'un fois, ils vont dire non, on ne touche pas à ça. J'ai besoin d'aller laisser aller mon troupeau encore 3 ou 4 ans avant de commencer à récolter des vieux mâles, des vieilles femelles. Ils sont très stricts là-dessus.
Puis les guides qui sont avec vous autres, c'est leur job à temps plein. Là. Ils habitent là-bas, dans la réserve. Puis est-ce que c'est des locaux ou bien c'est des gens qui proviennent d'un peu partout dans le monde?
C'est des locaux, mais c'est des locaux blancs. Donc, c'est des blancs,
africains,
un peu. Oui, carrément. Des, un peu deux chemins, là. C'est très... l'Africain ressemble beaucoup à de l'Allemand. Ils ont un petit peu, des fois, on a l'impression qu'ils sont sévères, même, quand ils parlent. Là. Alors, c'est des Blancs. Et la différence entre là-bas et ici... Ici, je peux prendre une carte d'affaires puis écrire « guide de chasse » dessus. Là-bas, tu dois suivre une formation avec la FASA, qui est la Professional Hunter Association of South Africa. Jess Leclerc, qui est le président de la FASA, nous parle régulièrement pour nous parler des changements. Il y a même des améliorations qui se sont faites dernièrement dans les formations pour approfondir les formations. Alors, quelqu'un qui veut être guide doit aller suivre son cours. C'est un cours qui est quand même assez rigoureux, qui n'est pas très long, par exemple. C'est très faisable pour quelqu'un comme moi ou toi. Et par la suite, il va avoir ses certifications. Et il doit maintenir ses certifications. Je te donne un exemple, un guide qui n'aurait pas fait une des catégories, par exemple, plain animal, water animal, mountain animal ou dangerous game, pendant un an, il n'aurait pas fait chasser d'animal là-dedans. Il doit se requalifier dans cette catégorie-là. C'est aussi strict que ça. Donc, ne peut pas être guide qui veut là-bas. Puis oui, effectivement, les guides vivent sur la réserve. Ça va arriver souvent. Par exemple, chez Inland Safari, c'est un très bon exemple. Ça arrive souvent que si on va chasser sur une autre concession, notre guide va nous demander « Est-ce que ça vous dérange si on arrête à l'intersection de telle route et telle route? Ma femme viendrait me rejoindre pour que je voie les enfants. Fait 6 mois, je ne les ai pas vus. » C'est régulier. Régulier. Là. Ils partent pendant de longues périodes de temps. Et souvent, ces guides-là, parce que les clients vont les adopter, bien, des clients qui vont venir de l'international, des Français, des Russes, des peu importe qui, et qui vont aller chasser d'autres secteurs de l'Afrique, bien, ils vont demander à ces guides-là de venir les rejoindre sur les réserves où est-ce qu'ils vont chasser, soit en les invitant à chasser avec eux autres ou en les invitant comme guide ou comme co-guide sur leur chasse. Fait que il y a une relation quand même assez privilégiée qui se dresse entre les chasseurs, leur PH et nécessairement le tracker qui travaille avec le PH, parce que le PH, donc le Professional Hunter, va pas mal tout le temps avoir le même tracker. Il est habitué à ce tracker-là. Yannick, c'est fou comment est-ce que on va, par exemple, faire feu sur un impala, on va dire ça comme ça, et on va faire un tir qui est trop bas. La personne va attraper le bas de la jambe, va casser une jambe. Tu vas rentrer sur la traque, donc on va chercher l'animal. On va tomber sur des boulevards, là, il doit y avoir à peu près 1000 traces d'impala là-dedans. Ces trackers-là, ça, c'est des locaux, ce sont des noirs, des personnes de couleur noire sud-africaine. Ils vont regarder les traces, ils vont dire « Ah, c'est celui-là, tu vois, il boite de la patte en avant, puis tu vois, il a arrêté de courir ici, il a tourné par là. » Ils vont être capables de suivre une trace dans les pires conditions. Et nécessairement, le guide va se trouver un tracker avec lequel il va évoluer pendant des années et des années. Fait que c'est pas rare de voir ces guides et trackers-là aller rejoindre des chasseurs dans d'autres parties de l'Afrique pour chasser avec eux.
Maintenant, quand vous êtes avec eux, quand vous récoltez qu'est-ce que vous faites avec la viande? Est-ce que vous avez le droit d'en manger ou vous devez absolument donner ça aux communautés environnantes? Ça fonctionne comment?
On en mange beaucoup. Je dirais que c'est même une des motivations de voyager en Afrique du Sud. On va avoir la chance de goûter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande exotique. Chez Eland Safari, quand on va au nord, en plus, ils sont très traditionnels. Ils font ça sur le braille dehors, tout le temps sur le feu. Chez Lakeside, on a une cuisine un petit peu plus de luxe, donc c'est plus processé. Je te donne un exemple, la lasagne aux zèbres. on va avoir ça.
La lasagne aux zèbres.
Oh oui, monsieur.
Là, tu viens de briser le cœur de ben du monde. Là. Un zèbre, là, manger du zèbre.
Il faudrait montrer des vidéos d'un vieux mâle zèbre, un vieux stallion dans un groupe de zèbres qui décide de discipliner les plus jeunes zèbres et qui part avec des bouchées de la grosseur d'un pamplemousse après les épaules des autres. Là. On finit par récolter ce zèbre agressif-là pour laisser un autre mâle prendre sa place. Puis oui, on le mange, puis oui, c'est très bon. On a mangé des burgers de zèbre avec Sylvain sur le braise, justement. Sur le bord d'un lac.
Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être inconscient comme réflexe, là, mais quand il s'agit, exemple, d'un cheval, tu disais, attends un peu, là, oui. Manger un cheval, ça n'a pas de bon sens, mais sérieusement, tout le monde se sac de manger du poulet? C'est quoi? Parce que le poulet, il est lait comme... Il est lait, puis le cheval est beau, tu t'en veux de manger du cheval? Tu sais, c'est...
Le syndrome de Dieu a donné le pouvoir à l'être humain de juger quelle vie avait le plus de valeur. Un poisson, un poulet, un orignal. C'est un peu terrible parce que c'est ces gens-là qui nous jugent en matière de conservation, en matière de gestion de cheptel animalier, dans le fait qu'on tue. Eux autres font un meurtre par procuration en donnant 20$ pour le poulet, mais c'est pas eux autres qui ont tué. Donc, ils sont corrects, ils font des beaux dodos. Qu'est-ce que je te dis, Yannick, la vie est ainsi faite.
Non, c'est juste incroyable. Puis quand tu vas là-bas, tu peux ramener, comme trophée, tu peux ramener la tête, c'est ça?
Oui. En fait, on choisit ce qu'on ramène quand on a récolté l'animal. Donc, puis poursuivre ce qu'on parlait, tu sais, de l'animal, il va se faire skinner, donc il va se faire arranger. On va sortir la viande, ça s'en va dans les chambres froides au ranch où est-ce qu'on est. On va en manger toute la semaine, puis les groupes qui s'en viennent après vont manger de nos animaux s'ils n'ont pas récolté. Le reste, ça retourne dans la communauté. Il y a certains pourvoyeurs qui en vendent une partie à la boucherie. La majorité, là, ceux avec qui on fait affaire, Eland Safari puis Lakeside Safari, ils vont redonner la viande dans la communauté en très grande partie. Après ça, oui, effectivement, quand l'animal est dépecé, on a retiré sa viande, le chasseur va choisir qu'est-ce qu'il veut ramener. Est-ce qu'il veut ramener juste un crâne blanchi? Est-ce qu'il veut ramener la peau tannée aussi pour la faire remonter ici? Est-ce qu'il veut faire taxidermiser l'animal là-bas pour se le faire envoyer? Là, il y a plusieurs choix. Il faut juste comprendre et être conscient quand on vient en Afrique du Sud, si on veut ramener notre trophée, il y a un certain coût à ça. Et c'est quand même une coupe de piastres. C'est quand même une coupe de piastres, ramener des bébites de là-bas parce qu'il y a toutes les considérations phytosanitaires. Il y a des vétérinaires dans le processus. Il y a énormément de paperasse dans le processus. Donc, juste toutes les étapes pour répondre à ces normes phytosanitaires-là, ça coûte un certain montant là, pour envoyer les bêtes ici au Canada. Puis rendu ici, l'Agence d'inspection des aliments va réanalyser les têtes, les crânes blanchis, les peaux, toute la paperasse, la signature du vétérinaire, etc. Et ça va arriver une fois dans le temps si vous voulez sauver quelques piastres puis vous faites affaire avec un taxidermiste à rabais en Afrique du Sud, ça va arriver que, rendu ici, ben une girafe avec du caca entre les deux orteils, ça se peut que ça se fasse brûler directement en arrivant ici. Il faut être consciencieux, il faut faire affaire avec les bons taxidermistes, il faut payer la piastre de plus pour être sûr que les règles phytosanitaires sont suivies. C'est pas pour rien que ces règles-là sont là. On veut pas transporter des maladies d'une place à l'autre, on veut que ça soit sanitarisé à 100% quand ça arrive ici. Mais oui, effectivement, là, les gens, je te dirais que la majorité des gens ramènent la peau tannée et le crâne blanchi pour faire taxidermiser ce qu'on appelle des shoulder mounts, un petit peu comme nos chevreuils ici qu'on met après le mur. D'autres vont choisir de ne ramener que le crâne blanchi. Il y en a qui ramènent absolument rien. Ils vont là-bas pour l'expérience, ils mangent la viande, ils donnent la viande à la communauté. Ça ne les intéresse pas nécessairement de revenir avec un trophée. Fait que les trophées vont être, les crânes vont être blanchis, les peaux vont être tannées, ça va être vendu dans la collectivité là-bas, puis l'argent va revenir au rancher. Ça lui permet de réparer des clôtures, de planter plus de maïs, de planter plus de luzerne ou quoi que ce soit. Ça revient. La roue tourne là-bas. Hein. La valeur d'un animal debout là-bas est excessivement importante au niveau de la conservation parce que quand le fameux richissime chasseur qui passe récolter un trophée là-bas, là, ben, il permet de réinjecter énormément d'argent dans la conservation sur place.
Maintenant, est-ce qu'on s'est déjà penché sur tout l'argent que l'industrie touristique peut amener dans le domaine de la chasse, de la pêche, que ce soit au Québec ou en Afrique? Là, parlons de l'Afrique. Oui. C'est quoi l'importance de la chasse en Afrique? On a parlé justement du contrôle des cheptels, là, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être trop de prédateurs versus trop de victimes, on va dire ça comme ça.
Oui, oui.
Versus pas assez de victimes, c'est-à-dire... Est-ce qu'on s'est déjà penché sur l'économie de la chasse?
Oui, et j'ai le journal de la WRSA derrière moi. La WRSA, c'est la Wildlife Rancher Association of South Africa. C'est un petit peu comme notre fédération des pourvoiries ici au Québec. Ils produisent un journal annuel dans lequel il y a toute une analyse financière. Je pourrais sortir les chiffres éventuellement, là, je ne les ai pas par cœur, mais on va comprendre l'essentiel. La chasse en Afrique du Sud, c'est quand même relativement jeune. Hein. Avant, c'était beaucoup plus au nord, avec le Botswana, le Zimbabwe, le Kenya, etc. Puis les safaris de chasse se sont déportés au sud tranquillement pas vite, pour atteindre l'Afrique du Sud. Si bien qu'aujourd'hui, sur le plan socio-économique en Afrique du Sud, c'est une entrée d'argent qui est capitale pour le pays. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'économie de l'Afrique du Sud qui tourne autour de la chasse, tant externe qu'interne. Parce que les Africains aussi chassent beaucoup. Ils vont chasser pour les trophées, mais il va y avoir beaucoup de meat hunters aussi en Afrique du Sud. Mais l'apport économique, là, puis on parle pas de conservation, on parle vraiment d'argent qui rentre dans les coffres de l'industrie là-bas, puis du gouvernement par la taxation, etc. Bien, socio-économiquement parlant, c'est devenu une des principales entrées d'argent en Afrique du Sud avec les industries que tu connais comme le diamant, et etc., là, tout le reste qu'ils peuvent faire là-bas. Là. Mais la chasse internationale est excessivement importante comme apport financier. C'était pas le cas avant. C'est le cas depuis... En 1960, quand ils ont décidé de commencer à mettre des clôtures puis commencer à vendre des parcelles, des terres gouvernementales aux ranchers, aux réserves privées, eh bien là, ça a commencé à prendre énormément d'ampleur, puis le facteur économique est devenu très important. C'est un petit peu comme si ici, au Canada, déjà la chasse, la pêche et le plein air apportent énormément d'argent. Bien, si demain matin, on commençait à mettre une valeur sur les bêtes qu'on chasse, on permettrait aux propriétaires terriens de posséder les bêtes, entre parenthèses, ben on vient de créer toute une nouvelle économie. Hein. C'est ce qui se fait ailleurs dans le monde. Les Occidentaux, on a un blocage là-dessus, mettre une valeur, hein. Mais on serait capable de générer encore plus d'argent qui pourrait être remis en conservation, mais qui, au niveau apport économique, des gens qui viennent chasser ici au Canada, un petit peu comme ça se passe en Afrique du Sud, ben au début, on n'en ressentirait pas trop les effets. Hein. En 1960, il y avait moins de 500 000 d'animaux en Afrique du Sud. Je pense que dans les 5-6 premières années, ils n'ont pas fait une grosse fortune avec ça. Mais ça leur a permis de réinjecter de l'argent, si bien qu'aujourd'hui, c'est au-delà de 21 millions d'animaux qu'en Afrique du Sud. On est parti d'un demi-million à 21 millions parce que justement, on a augmenté les cheptels avec ces argents-là. Puis aujourd'hui, bien, c'est rendu un peu comme si on aurait placé une pièce quand on était en maternelle à la banque. Mais aujourd'hui, c'est rendu que ça rapporte énormément d'argent. C'est quelque chose qui serait possible ici aussi, là, si ce serait plus tricky un peu, il faudrait l'adapter à notre milieu. Là. Mais on a déjà un très gros apport économique, chasse, pêche, plein air, ici au Canada. Si on prendrait un petit peu le modèle de ceux qu'on pointe du doigt en disant qu'ils sont des erreurs dans conservation, quand en réalité, ils nous sacquent une volée en tabarouette dans conservation, mais je pense qu'on pourrait non seulement avoir des troupeaux qui sont beaucoup plus en santé, mais on pourrait faire de la chasse un moteur économique encore plus important. Puis c'est, faut pas juste voir la chasse comme l'animal qu'on va tirer. C'est la consommation d'essence, c'est les restaurants, c'est les hôtels, c'est le matériel, c'est énorme. Le réseau économique qui se développe à l'entour d'un chasseur, d'un pêcheur ou encore d'un villégiateur, il est énorme. Ça, ils l'ont compris là-bas. Ils l'ont compris puis ils l'ont fait fructifier. Bon, aujourd'hui, des animaux, ils en ont en tabarouette. Oui, ils sont regardés par les Occidentaux comme « vous vendez des animaux ». Ben oui. Mais il y en avait un demi-million, ils sont rendus à 21 millions. C'est pas ça qui se passe ici, là.
Oui, puis je comprends. Puis, tu sais, je sais que tu es un gars curieux, là. Comment ils font pour tenter d'éviter la consanguinité?
Ah, c'est très simple. Il y a une loi en Afrique du Sud qui oblige chacun des propriétaires terriens à avoir des clôtures sur le tour de son terrain. Dans le cas des réserves privées, ben, ils vont vraiment avoir des « high fence », donc vraiment des hautes clôtures électrifiées. Donc, ils sont conscients de leur inventaire de bêtes et régulièrement, soit avec les autres ranchs ou encore au travers d'encans, ils vont capturer une partie de leur troupeau qu'ils vont vendre dans un encan, puis ils vont acheter une partie de troupeau dans cet encan-là pour réintroduire la nouvelle génétique. Ils sont excessivement conscients de ça et je te dirais que en termes de connaissances génétiques, là, c'est impressionnant de parler avec les ranchers là-bas parce qu'ils vont en même temps aller chercher des génétiques pour avoir des plus beaux panaches qui soient plus attirants pour les chasseurs qui vont venir payer. Avoir des phases de couleurs, tu sais, dans l'impala, dans le springbok, dans le gnou et dans quelques autres animaux, il y a différentes phases de couleurs qui existent à l'état naturel. Par exemple, dans le springbok, dans les Kalahari, il existe quatre phases de couleurs. Alors, les ranchers vont en profiter en même temps pour introduire des phases de couleurs différentes pour qu'il y ait des accouplements qui donnent des hybrides, pas des hybrides, mais qui donnent plus de phases de couleurs comme ça. Donc, ils vont diversifier leurs troupeaux. Ils vont être excessivement attentifs au développement de leurs troupeaux d'année en année. Puis assez rapidement, ils vont se revirer à faire soit des échanges d'une partie du troupeau avec d'autres ranchers, d'autres réserves privées, ou encore, ben, comme je te l'ai dit, à l'encan. Ce sera pas rare de voir, par exemple, des fermes qui ont beaucoup de Cape Buffalo. Patrick Daigle, entre autres, a filmé une scène super intéressante sur sa propre ferme à lui. Patrick et Priscille étaient propriétaires d'une ferme, donc d'une réserve privée à Hardays, en Afrique du Sud. Et ils vont venir déplacer des Cape Buffalo pour les amener sur d'autres réserves ou encore sur d'autres parcs. Là. C'est impressionnant. Là. C'est avec une petite fléchette, ils l'endorment. Puis là, tu as toute une équipe avec une espèce de gros hamac. Ils embarquent ça là-dedans, ils déplacent ça en hélicoptère, ils vont porter ça sur un autre ferme. Ils ont un savoir-faire là-dedans qui est incroyable. Puis là, j'entends souvent les gens me dire « Ouais, mais les maladies croisées contaminées, bien, présentement, en Afrique du Sud, il y a une problématique avec le pied-main-bouche chez certaines sortes d'animaliers, le foot-and-mouth disease. Et tu vois, dans le sud où est-ce qu'on est, elle n'est pas encore très présente. mais ils sont très rapides sur les moyens de contrôle. Alors là, tous toutes les réserves privées locales, au travers d'associations, se sont cotisées. Et tu te promènes sur la route, puis il y a plein de postes où est-ce que tu es obligé d'arrêter. Il y a des grosses clôtures. Là, il y a des petits gars avec un backpack puis une pompe qui vont venir arroser les pneus puis le dessous du véhicule avec un liquide pour éviter que cette maladie-là se transfère d'un territoire à l'autre. Ce qu'on essaie de faire ici au Québec, là, avec les stations de lavage, entre autres, pour éviter les espèces envahissantes d'un lac à l'autre, qu'on n'est pas foutu de faire. Là. Mais quand on pointe l'Afrique du Sud comme étant un pays du tiers-monde qui ne sait pas comment s'organiser avec ces animaux, là, là-bas, avec les moyens qu'ils ont, il y a des barrages partout et ils arrosent nos véhicules pour éviter qu'on transporte des maladies. Là.
Ouais.
Et je veux dire, ils sont non seulement conscients au niveau de la génétique et de la consanguinité, ils sont excessivement conscients aussi au niveau des risques inhérents aux différentes maladies qui peuvent se transférer d'une ferme à l'autre.
Alors, puis même aux États-Unis, là, pour ce qui est des gens qui se promènent en bateau, là, il y a des endroits où le policier est directement sur le bord de la route puis il t'indique, si tu as un bateau sur ta remorque, là, il t'indique de tasser,
oui.
Puis tu dois aller à une place puis tu dois laver ton bateau avant d'aller le mettre dans l'eau à cet endroit-là. On aurait peut-être intérêt à apprendre un peu des Africains et des Américains en ce sens. Le caribou forestier, c'est pas les animaux qu'on a le plus au Québec. Là. On aurait-tu avantage de faire un gros enclos immense, un peu comme on fait en Afrique, pour tenter d'ajouter plus d'armes de ces caribous forestiers-là au Québec? On serait-tu capable de le faire à grande échelle?
Il y en a une. Il y en a une présentement. Il y en a une enclos. Elle n'est pas si énorme que ça. Est-ce qu'on aurait avantage à le faire? Oui. Est-ce qu'on aurait avantage à le faire en déplaçant les animaux? Je suis moins sûr un peu. T'sais, il y avait deux zones à faible perturbation du milieu qui avaient été votées par le provincial, donc par François Legault l'année passée, sous la menace du fédéral qui voulait mettre un amendement pour fermer toutes les routes. Et ces deux zones à faible perturbation-là auraient permis aux caribous de se réétablir. Malheureusement, suite après les fêtes, il a décidé de mettre des champs d'éoliennes là-dessus, fait qu'on vient de scraper le mélange bien net. Mais je dirais que, oui, les enclos, c'est une façon qui est utilisée à bien d'autres places dans le monde, là, pas juste l'Afrique du Sud, dans lequel on réussit à contrôler la prédation, à laisser un cheptel se rééquilibrer. Tu parles du caribou, je vais te faire un parallèle exact. Le caribou, on est descendu à 17 ou 14 individus à un certain moment dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça. Là. On se transfère en Afrique du Sud, le Bontébok. Le Bontébok, qui ressemble beaucoup à un blesbok, est descendu à 14 individus aussi à un certain moment. Les ranchers se sont mis dans le dossier. Donc, ils ont incorporé des Bontébok dans leurs... Tu sais, quand on parle d'enclos là-bas, là, c'est des 25, 50, 60, 100, 125 km². Là. C'est pas un enclos comme notre cour. Ce sont des parcs, des réserves privées qui sont clôturées. Et ils se sont appliqués à rehausser le cheptel de Bontébok, justement en faisant des différences au niveau de la génétique pour s'assurer que tout aille bien. Bien, cette année, en fin janvier, la FASA et la WRSA annonçaient que la CITES, qui est l'organisme qui classifie les espèces en danger, etc., sur le plan mondial, délistait le Bontébok et le réintroduisait disponible à la chasse tellement que les quantités étaient rendues sécuritaires. Donc,
wow.
Ils ont fait une bonne job à l'intérieur de très peu de temps, là,
ouais.
un petit peu plus d'une décennie, là, que maintenant, non seulement il est abondant, mais on doit recommencer à introduire de la chasse pour recommencer à faire un contrôle positif des cheptels là, des troupeaux de Bontébok. J'ai eu la chance d'en chasser un la semaine passée. C'est quelque chose que je pensais jamais chasser parce qu'il a été en danger pendant des années. Maintenant, les quantités sont très, très, très intéressantes. Il faut même appliquer une gestion dessus. C'est le parallèle exact. Avec le caribou, c'est le même nombre d'individus et il a souffert de la même problématique, c'est-à-dire son espace naturel qui était hautement perturbé, puis ça a fait planter le cheptel. Même chose que le caribou ici, mais ce tiers-monde-là, comme l'identifient les Occidentaux, a mieux réussi que des pays aussi riches que nous autres avec des infrastructures comme les nôtres à sauvegarder une espèce qui était rendue à 14. On se rappellera que les libéraux de François Legault, pas les libéraux, excuse-moi, mais les provinciaux donc de François Legault, ont eu quand même 8 ans pour mettre un plan d'action en place. Il a fallu qu'à la dernière minute, le fédéral arrive avec avec des amendements possibles pour bloquer tous les chemins forestiers pour que le provincial finisse par réagir et dire « Bon, ben c'est bon, on va se voter 2 aires protégées. » Puis finalement, regardez ce qu'il a fait, ils ont sacré des champs d'éoliennes là-dedans. Éventuellement, on va perdre complètement ce troupeau-là. C'est un peu les parallèles que je fais quand les gens me parlent de « Ouais, c'est du Sud, c'est ça. » Je ne sais pas de quoi vous parlez, là. Le Nord standard américain moyen, là, il fait caca 3 à 4 fois dans de l'eau potable d'une journée. On part de là, là. Il est capable d'éteindre des espèces comme le caribou avec des motivations qui sont des projets d'envergure ou des trucs comme ça. Il est capable de regarder le saumon arrêter de remonter dans les rivières, des baisses de montaison de 80% sur le saumon de l'Atlantique l'année passée, puis faire absolument ou presque rien. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Alors, quand on se compare avec des endroits où est-ce qu'ils ont beaucoup moins de moyens que nous autres, avec des animaux dans les mêmes quantités, avec la même problématique à la base, qu'on est rendu qui est tellement abondant aujourd'hui qu'on doit réintroduire la chasse, il faut faire une introspection et regarder comment est-ce qu'on gère notre propre nature avant de regarder ailleurs.
Hey, je veux te reparler après la pause encore du caribou forestier, parce que j'ai récolté quelques histoires dans les derniers jours. Je me suis dit, tiens, quand je jaserai avec Martin, je vais lui parler de ça. Je rappelle ce soir qu'on est avec Martin Bourget, il est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. C'est un expert en chasse et en pêche. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. À Boulevard 102.1, on aime ça quand notre belle ville s'anime. C'est pourquoi on vous invite le 28 mars dès 14h à la 14e édition du célèbre défilé de la Saint-Patrick. Le parcours se déroulera de l'avenue Cartier jusqu'à l'Hôtel de Ville de Québec, en passant bien sûr par le Château Frontenac. Un événement gratuit avec fanfare, troupe de danse et animation. Soyez de la fête le 28 mars au défilé de la Saint-Patrick, en partenariat avec la Ville de Québec, le Château Laurier et la Souche. Une invitation de Boulevard 102.1.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20$, mais aussi de grandes marques. Forfait verre et montures, simple vision 70$ et progressif 150$.
Zoom, zoom, lunettes!
C'est le Salon du vélo de Québec avec un nombre record d'exposants. Voyez les nouveautés en vélo de route, gravel, montagne, électrique. Essayez même votre prochain bijou sur notre piste dessin intérieur. Voyages, conférences, ateliers mécaniques, compétitions de BMX sur notre pump track, tout y est. Participez au concours officiel Voyage Tradit Tour et courez la chance de gagner 5 000 $ en crédit applicable sur un voyage en vélo électrique. Le Salon du vélo du 20 au 22 mars au Centre de foire d'Expo-Cité. Info et bien sur salonduvélo.com.
Le printemps arrive chez Lévis Ford. Pour un temps limité, à l'achat d'un véhicule neuf, recevez un plan d'entretien gratuit, incluant vos deux premiers changements d'huile et les permutations de pneus. Passez-nous voir dès aujourd'hui chez Lévis Ford, les forts de Lévis.
C'est le Salon La Tulipe et pour l'occasion, on paie l'équivalent des deux taxes en ligne et en magasin jusqu'au 29 mars. Et à la succursale de Québec, on fait ça en grand. Venez rencontrer Stéphane Monette, Patrick Campeau, José Boily, le photographe Jean-Simon Bégin et plusieurs autres représentants de vos compagnies préférées. Plus de 15 000 $ en prix de présence et plus de 125 000 $ de cadeaux remis avec achat. Bière, dégustation, nouveautés plein air, ça va brasser chez La Tulipe. Tous les détails de la programmation au latulipe.com.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. Tel qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Si tu aimes les plats de chez nous, viens chez Trad. Si tu aimes bien servir, viens chez Trad. Si tu aimes les cornichons sur ta poutine maison. Ah ouais, ben merci, je vais essayer ça. Si tu aimes les bonnes idées, viens chez Trad. Les marchés tradition, pour vous, avant tout.
Bon, fait que là, je dis la promo Volksfest, c'est ça?
Exactement, tu dis. Le Volksfest est en cours chez Volkswagen. Financez les modèles 2026 à 1,99% et ne faites aucun paiement pendant 90 jours.
Excuse, Pierre-Luc, c'est pédago aujourd'hui.
OK, mais je sais juste qu'elle articule vraiment bien, là. C'est que moi, la semaine prochaine, j'irai peut-être en voyage. Elle serait-tu disponible pour me remplacer?
Profitez du Volksfest avec des offres de financement à 1,99% jusqu'à 36 mois et faites aucun paiement pendant 90 jours sur les modèles 2026. Faites vite, les offres se terminent le 31 mars. Sur approbation de crédit, détails chez votre concessionnaire. Volkswagen.
CTB Construction est à la recherche de compagnons d'expérience en construction neuve et en rénovation majeure. Chez nous, on travaille à l'année. Salaire payé décret en tout temps et des chantiers le plus près possible de chez vous. Ajoutez à ça une prime d'embauche. Postulez maintenant au carrière.fm.
Le samedi 13 juin, la NSPW présente Golden Opportunity 16 au pavillon Guy Lafleur. En vedette, l'ancienne star de la WWE, Mustapha Ali. Les billets sont en vente sur ticketpro.ca. Une présentation de Boulevard 102.1 et XPN.
Depuis 1970, chez Matelas Dauphin, nous fabriquons au Québec des matelas de qualité exceptionnelle pour que nos clients passent de belles nuits. Présentement, nous liquidons les surplus de production et d'inventaire de nos matelas les plus populaires. des centaines de dollars d'économies, plus taxes payées sur tous les matelas. Matelas Alcove, format double ultra confortable, en spécial à 599 $ taxes payées. Profitez de la liquidation d'inventaire dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
C'est le moment ou jamais de vous procurer une Mazda 3 2025 chez Lévis Mazda. En ce moment, on vous l'offre à, tenez-vous bien, 87 $ par semaine avant taxe avec un léger acompte en location sur 48 mois. Venez l'essayer, vous allez voir que le plaisir de conduire une Mazda, c'est pas une invention du gars de la radio. On est ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 20h. On vous attend chez Lévis Mazda, c'est bien connu, on s'occupe de vous.
Bienvenue aux petits rigurgis, aux gros vomis, aux rougeurs bizarres, aux têtes qui piquent.
Oh non, pas encore!
Aux fesses qui grattent, au nez qui morve, qui coule, qui bouche. Bienvenue aux joies d'être parent. Bienvenue chez Uniprix. Pour obtenir des conseils ou une prescription, vos pharmaciens de famille affiliés à Uniprix sont là. Consultez-les. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air, chasse, pêche et camping, présenté par Sport Chief avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air de la région revient au Centre de foire Exposité du 26 au 29 mars pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse, de pêche, de bateau, de camping et plus encore. Des conférences passionnantes toute la fin de semaine avec des experts, incluant notre ambassadeur Michel Therrien. Le Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec du 26 au 29 mars au Centre de foire Exposité. Billets et informations au salonpleinairquebec.ca.
Retour de l'intégrale Nirvana MTV Unplugged in New York en formule rock symphonique au Grand Théâtre de Québec le vendredi 27 mars. L'Orchestre symphonique de Québec et la formation Louis et Manu vous offrent un concert unique. Sous la direction du chef d'orchestre Olivier Hébert, plus de 55 musiciens interprètent les plus grands succès de ce géant du grunge en version symphonique. Billets en vente au grandtheatre.qc.ca.
Vous entendez ce silence? C'est le futur qui arrive et il se conduit. Voici le Polestar 4, VUS coupé 100% électrique au design des plus audacieux. En location à partir de 359 $ aux deux semaines, à un taux de 0,99%, 0 $ de comptant initial. Disponible pour livraison immédiate, votre prochain véhicule vous attend déjà. Polestar 4, le VUS coupé de demain, dès aujourd'hui. Polestar Ville de Québec, votre destination 100% électrique.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
On est avec Martin Bourget aujourd'hui, le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Il nous parlait de son périple en Afrique juste avant la pause. Puis on a bifurqué un peu sur le caribou forestier au Québec. J'ai eu la chance de jaser avec un garde forestier, un gars de Sainte-Marie, hyper sympathique, qui m'a parlé du caribou forestier, des dangers qui guettent le cheptel de caribou forestier. De ce que je comprends, on est pas mal au courant là, du nombre de caribous forestiers qui sont sur le territoire. Et il y a certaines façons de faire au niveau de la chasse pour ce qui est du caribou forestier. Est-ce que les Amérindiens sont sur les mêmes chiffres que nous concernant les cheptels? Est-ce que les Amérindiens ont eu des associations justement pour préserver la faune, un peu comme ceux qui sont arrivés après eux autres, là, les maudits hommes blancs?
Oui, la réponse, c'est oui. Quand on parle de différence au niveau de la chasse en caribou forestier, bien, il est protégé, on n'a pas le droit de le chasser. Les Premières Nations ont accès aux mêmes chiffres que nous autres. Ils ont des associations, donc au départ, hein, ils ont localement leur conseil de bande et ils ont des associations de chefs aussi qui discutent de toutes ces choses-là. Maintenant, si on parle de Premières Nations, que ce soit les Premières Nations ou les Blancs, il y a toujours des gens qui écoutent un peu moins que d'autres. C'est sûr qu'il y a des échappés. Naturellement, puis tu sais, on a tendance beaucoup plus facilement à sacrer ça dans la presse quand c'est quelqu'un des Premières Nations parce que ça fait du show, c'est spectaculaire. Effectivement, il y a des gens des Premières Nations qui dépassent les bornes, comme il y a des Blancs qui dépassent les bornes aussi. Caribou forestier, justement, il y a eu une altercation dernièrement là, avec un cadavre de caribou forestier qui était dans une résidence, dans une réserve XYZ. Et ça a réagi beaucoup des deux côtés, agents de protection de la faune et sur la réserve, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, ben dorénavant, on refuse que les agents de protection de la faune rentrent sur notre territoire. Moi, je te dirais, c'est plus à ce niveau-là, souvent, qu'on nous autres, les Blancs, les pieds plats, là, c'est souvent là où est-ce qu'on a un problème, à savoir, OK, mais pourquoi est-ce que ce serait pas inclusif comme loi, que ce serait pas tout le monde, que les agents de protection de la faune n'auraient pas accès à tous les territoires pour faire ce qu'ils ont à faire. Hein? C'est des agents de la paix qui ont comme mandat la loi sur la protection des milieux humides, la mise en valeur et la protection des milieux humides. Ils devraient pouvoir le faire dans toutes circonstances avec n'importe quel citoyen canadien. Alors souvent, ben, les Premières Nations vont dire « on n'est pas citoyen canadien, nous autres, on est de la terre-mère » ou je ne me souviens pas quel nom ils donnent. Malheureusement, ben, c'est pas comme ça qu'on va arriver à gérer une faune, définitivement. Puis c'est malheureux parce que la très grande majorité des conseils de bande puis des Premières Nations respectent ces choses-là. Comme je dis, dans certains cas, il y a des échappés, comme chez les Blancs. Il y a beaucoup d'échappés chez les Blancs aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La différence, c'est que chez un Blanc comme moi puis toi, ben l'agent dont tu me parlais tantôt va réagir tout de suite. Il va monter son dossier, puis il va l'amener en cour, puis le procureur de la Couronne va le passer. Malheureusement, il y a, oui, tous les traités qui existent ancestraux, puis on les reconnaît. Puis je suis parfaitement conscient de ces traités-là. Mais quand on outrepasse les lois, le même agent de protection de la faune dont tu me parlais pourrait t'en parler aisément. Là, je pense qu'ils sont rendus très. Ils verbalisent beaucoup là-dessus. Ça ne donne pas grand-chose de monter un dossier parce qu'il va dépenser les fonds de l'État. Puis au bout du compte, mais qui arrive devant la cour, le procureur de la Couronne, si c'est quelqu'un des Premières Nations, il va abandonner les charges. That's it. C'est ce qui se passe dans l'ordre aussi.
Ça frappe quand tu nous dis ça. Mais je te pose une question comme ça. Pourquoi, dans certains dossiers, on ne rentre plus dans les maisons, mais on demande aux gens des Premières Nations, coupe-y une oreille, puis donne-moi l'oreille par la fenêtre, puis après ça, je m'en vais. Pourquoi ça?
Oui. Ça, c'est parce que le service de protection de la faune s'est doté il y a, je pense, presque une dizaine d'années là, d'un laboratoire médical, de type médico-légal, si on veut, vraiment poussé. Dans lequel ils sont capables, avec un poêle, de relever l'ADN puis de te dire c'est telle espèce, tel âge, tel sexe, tel ci, tel ça. Ils vont s'en servir dans le cas d'enquête où est-ce que, par exemple, ils suspectent Yannick Marceau d'avoir tué un caribou forestier à telle place. Ils trouvent un poêle dans ton troc. Il y a un poêle sur le caribou forestier. Ils vont comparer les deux puis ils vont être capables de t'inculper avec ça. Ils vont être capables de fournir une preuve. Le fardeau de la preuve est beaucoup moins grand pour les agents depuis que ce laboratoire-là existe. Fait que quand ils demandent des parties de l'animal comme ça, c'est pas en vain. C'est vraiment pour faire les expertises médico-légales puis arriver avec des preuves scientifiques que l'animal qui a été tué, c'était bel et bien un caribou forestier avec de tel âge puis de tel sexe.
Mais en bout de ligne, ça se rendra jamais en cours. C'est ce que tu m'expliques. Là.
Ben, je peux pas en juger par moi-même. Moi, ce que je te dis, c'est que à date, ce que les agents de protection de la faune nous rapportent, c'est que dans à peu près tous les cas où est-ce qu'ils ont amené des dossiers qui concernent les Premières Nations, c'est abandonné par le procureur de la Couronne. That's it. Et ça arrive aussi dans le cas des Blancs, trop souvent, que le procureur de la Couronne va laisser tomber la cause parce que souvent, avec le débordement, dernièrement, c'est sorti à Radio-Canada. Là, il y a comme quelque chose comme 80 causes sont en attente. Là. Il y a du monde qui ont le temps de récidiver avant que la cause soit entendue, ces arrêts Jordan. Fait que souvent, le procureur de la Couronne va faire comme un orignal, c'est pas un crime majeur, on laisse aller. On laisse aller. Malheureusement. C'est... On parlait de l'Afrique tantôt, là. Si tu es en situation de braconnage, là, et tu tombes sur une réserve privée, ils vont tirer, là. Ils jugent pas, ils tirent.
OK. Mais j'ai appris aussi que les règles dans le bois profond, là, sont pas les mêmes qu'en ville. Hein. Tu sais, ça se peut que tu te fasses braquer une arme directement dans le front puis que que la police soit pas là pour t'aider.
Ben oui, ben il y a au centre de formation à Duchesne, des agents de protection de la faune, il y a un mur honorifique des agents qui sont morts par balle. C'est pas une légende urbaine, ça arrive réellement. On parlait, je pense, en octobre passé, sur tes ondes, on parlait d'un autre agent de la faune qui s'était fait pointer un canon dans le front. Fait que nécessairement, à un moment donné, sur son épaule, c'est marqué « protéger, servir », hein, mais la première chose qu'il faut qu'il protège, c'est lui. Hein. C'est sûr qu'il va se retirer dans ce cadre-là. Il risquera pas que le litige augmente puis qu'on en vienne qu'à des coups, parce que l'agent, il est armé lui aussi, puis essayez de ne pas tester ça, parce que lui, il s'entraîne, il est plus rapide avec son arme de poing que vous faites l'être avec une carabine, le temps de lever un canon. Faites pas ça. Si ça n'en vient pas au coup, c'est parce que l'agent, il a probablement plus de jugeote dans cette situation-là, puis lui décide de se retirer pour la sécurité de lui, mais de toute votre gang aussi. Là.
Puis de votre côté, quand vous êtes dans le bois, est-ce que vous vous sentez en sécurité?
Absolument. Ouais. Absolument. Là où est-ce qu'il y a plus de problématiques, il y en a que c'est surtout en territoire libre. Où est-ce qu'il n'y a pas... En territoire libre, là, il n'y a pas de place réservée à qui que ce soit. Il peut y avoir des bails qui sont faits sur un certain kilomètre carré qui te permet de mettre une habitation mobile dessus, mais ça ne réserve pas ton territoire, par exemple, à la chasse. Et beaucoup vont mettre des pancartes un peu partout dans le bois. Secteur réservé jusqu'en 2080 pour la famille Tremblay. Mais c'est pas vrai. Puis il y a des altercations qui lèvent à ce moment-là. Ben, tu sais, il y en a qui veulent avoir le territoire et l'autre ne laisse pas chasser là. Ben, là, il attache la cache après son pick-up puis il sac toutes les caches à terre au moment où il sac le feu dans le chalet ou il tire dans la cache. Ouais. Dans ces cas-là, c'est... Puis, tu sais, j'invite les gens à aller voir La Guerre des Bois. C'est un reportage qui a été fait, je ne me souviens pas par quelle société, je pense que c'est Radio-Canada qui avait fait ça, La Guerre des Bois. Vous allez vous rendre compte à quoi ça ressemble dans ces milieux-là. Mais nous autres, en pourvoirie, en CEPAC, en ZEC, honnêtement, non.
Martin Bourget, pour avoir accès à toute...